l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, le coup de fil entre les présidents russes et américains.
Coup de fil qui a duré 2 heures. Au menu, la guerre en Ukraine. Nous sommes généralement sur la bonne voie, affirme Vladimir Poutine. De son côté, Donald Trump assure que la Russie et l'Ukraine vont démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Nous appelons dans un instant notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. En Pologne, c'est le maire pro-Union européenne qui remporte le premier tour de la présidentielle, mais de justesse face à son adversaire nationaliste. La campagne du second tour lancée ce matin s'annonce extrêmement tendue. Nous en parlerons avec notre envoyé spécial, Daniel Vallot. Plus précisément, on va se pencher sur un des enjeux majeurs de la campagne, la place de la Pologne au sein de l'Union européenne.
Et puis, autre élection qui s'est tenue hier en Europe, les législatives au Portugal. On va évoquer la nouvelle donne politique, l'extrême droite désormais deuxième force politique du Portugal. Peut-elle peser dans la future coalition? Comment expliquer une telle ascension? Eh bien, nous appellerons nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur ce sujet dans leur édition à paraître demain mardi.
Et puis, nous irons au château de Versailles pour le dossier de ce 20h. Château de Versailles où le président français Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi soir devant près de 200 patrons français et étrangers pour le sommet Choose Friends, qu'il organise chaque année depuis le début de son premier mandat.
Donald Trump et Vladimir Poutine se sont donc téléphonés aujourd'hui.
Oui, et les deux hommes ont évidemment parlé de la guerre en Ukraine. Un entretien instructif et utile, selon le président russe, qui ajoute « Nous sommes de manière générale sur la bonne voie ». Le chef du Kremlin précise que l'entretien a duré pas moins de 2 heures. C'est ce qu'a dit aussi Donald Trump de Washington, où l'on retrouve notre correspondant permanent, Guillaume Nodin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour autant, Guillaume, le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine n'est pas pour tout de suite.
Oui Christophe, on s'y attendait un peu étant donné les déclarations assez prudentes côté américain avant la conversation. Le vice-président américain J.D. Vance évoquait même une impasse. Ce que l'on sait, c'est que selon Vladimir Poutine, la conversation avec Donald Trump a duré plus de 2 heures, qu'elle a été utile et franche, ce qui en langage diplomatique indique habituellement que les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donald Trump, qui n'est habituellement pas le dernier à communiquer, a laissé au président russe l'initiative de commenter l'appel le premier. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il a parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky avant ce coup de fil, et que le président ukrainien lui a demandé d'insister sur un cessez-le-feu unilatéral de 30 jours. C'est ce que demandaient aussi les Européens, auxquels Donald Trump a aussi parlé avant ce coup de fil, et qu'il n'a donc manifestement pas obtenu. Le président américain s'est exprimé sur son réseau social personnel, après avoir rendu compte aux Européens et à Volodymyr Zelensky de cette conversation avec Vladimir Poutine, pour dire qu'elle s'était à son sens bien passée et que des négociations de paix directes entre Ukrainiens et Russes devaient commencer immédiatement, sans partie extérieure, c'est-à-dire sans lui, pour préserver le secret de la discussion. Et il souligne que le Vatican, par la voix du pape, s'est dit intéressé à accueillir ces discussions.
Merci Guillaume Nodin, en direct de Washington.
Amnesty International interdite en Russie.
Interdiction prononcée ce lundi par le parquet général russe qui juge l'ONG indésirable pour cause, je cite, de projets russophobes mondiaux, et puis à cause de sa défense des intérêts ukrainiens. Amnesty va donc devoir quitter la Russie au moment où toute voix critique est durement réprimée. C'est en 2015 que Moscou avait dressé sa première liste d'organisations indésirables, longue aujourd'hui de 223 noms.
Allez, l'actualité au Proche-Orient de ce lundi à présent, et Israël qui va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza.
C'est ce qu'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après avoir annoncé qu'une petite quantité d'aide humanitaire serait autorisée à passer. Le blocus dure depuis 2 mois. À Gaza, où 2 millions de personnes sont affamées, selon le mot aujourd'hui du chef de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce jeudi, plusieurs dizaines de personnes ont encore été tuées dans des bombardements, selon la défense civile de Gaza, ce qui fait plus de 160 Gazaouis ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé palestinien. Car l'État hébreu a lancé une vaste offensive terrestre et aérienne, son nom, les chariots de Gédéon. Objectif assumé, on l'a entendu, accaparer l'intégralité de l'enclave palestinienne, déplacer massivement la population et libérer les otages, toujours aux mains du Hamas. Écoutez ces témoignages de Gazaouis, recueillis depuis Jérusalem par Sami Boukhelifa.
Le nord de la bande de Gaza rayé de la carte. Après des mois de bombardements intensifs, l'armée israélienne fait sauter à l'explosif quasiment une par une les carcasses des maisons déjà en ruine. Les bulldozers et les engins de terrassement finissent le travail de démolition en recouvrant les décombres, des villes entières transformées en terrain vague. Il y a 24 heures, Mohamed, un habitant du nord, a dû se résoudre à fuir sans trop savoir où aller.
Dans le nord, la situation est catastrophique. Ils nous ont interdit de rester sur nos terres. Pour nous pousser à partir, ils nous ont bombardés. On est parti sous un feu nourri. De toute façon, je n'ai plus de maison. On a rassemblé les quelques affaires qu'il nous reste et on est venu ici, dans le centre de la bande de Gaza, à Nusayrat.
Les mêmes scènes de chaos dans le sud de la bande de Gaza. Israël s'empare des terres palestiniennes. La région est vidée de ses habitants. La population est bombardée et affamée. Depuis 80 jours, Israël interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. On ne mange plus qu'une fois tous les deux ou trois jours, raconte Mohamed.
On n'en peut plus. J'aimerais juste pouvoir avoir un bout de pain pour mes enfants. Et tous ces pays à l'étranger, hypocrites et complices qui ne veulent rien faire pour stopper ça et pour protéger les civils innocents. Nous n'avons rien à voir avec cette guerre. En tant que Palestiniens, en tant que Gazaouis, nous n'avons rien fait pour mériter ça.
Sous pression de Washington, le Premier ministre israélien annonce autoriser une reprise limitée de l'aide humanitaire. Benjamin Netanyahou est recherché par la justice international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
De Jérusalem à Varsovie à présent, on va évoquer la Pologne. Le premier tour de la présidentielle, c'est le maire pro-Union européenne de Varsovie qui l'emporte.
Oui, l'élection arrive à un moment délicat pour le pays, alors que la guerre entre la Russie et le voisin ukrainien continue et que les relations avec Washington sont tendues. Le maire pro-Union européenne de Varsovie a donc rassemblé plus de 31% des suffrages, mais son adversaire nationaliste n'est pas loin, 29%, un peu plus. C'est dire si les deux candidats se sont lancés dès ce matin dans une campagne qui s'annonce extrêmement tendue. Daniel Valo, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Daniel Valo, envoyé spécial en direct de Varsovie. Daniel, parmi les enjeux majeurs de cette nouvelle campagne qui débute et qui va durer deux semaines, la place de la Pologne au sein de l'Union européenne.
Absolument, parce que l'Europe divise profondément les deux candidats. D'un côté, il y a Karol Nawrocki, le candidat du PiS, profondément eurosceptique, hostile à ce qu'il dénonce comme étant les élites européennes qui voudraient imposer leurs valeurs progressistes à la Pologne, qui voudraient également lui imposer, au dire du PiS, une immigration hors de contrôle. Ce sont les arguments avancés par le parti conservateur pour disqualifier aux yeux de ses électeurs l'Union européenne. Il faut dire que lorsqu'il était au pouvoir, les relations entre le PiS et Bruxelles étaient exécrables, avec un bras de fer notamment sur la question de l'étroit de l'état de droit. De l'autre côté, le camp libéral incarné par le maire de Varsovie se veut au contraire profondément européen, et c'est un argument que Rafał Trzaskowski va sans doute brandir durant cette campagne de l'entre-deux-tours en présentant le PiS comme le parti qui va éloigner la Pologne de Bruxelles. Le pari sera donc d'une certaine manière similaire à celui qui a réussi en Roumanie pour le maire de Bucarest, vainqueur hier de l'élection présidentielle face à un candidat d'extrême droite qui était lui aussi résolu hostile à Bruxelles. Nous saurons dans deux semaines si à Varsovie comme à Bucarest, eh bien, cette stratégie pro-européenne sera ou non couronnée de succès.
Merci Daniel Valo. Vous parliez de la Roumanie. Le pro-européen Nicu Zordan a donc comporté le second tour de la présidentielle avec plus de 53% des suffrages face au nationaliste George Simion, qui lui a rassemblé plus de 46% des votants. C'est la mobilisation des Roumains, avec une hausse importante de la participation entre les deux tours, qui aurait permis au maire centriste de Bucarest de l'emporter. Un succès à l'ampleur inespérée qui lui a valu les félicitations de plusieurs dirigeants, français, polonais, ainsi que la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN.
Alors, on a évoqué la Pologne, on a évoqué la Roumanie. Autre élection qui avait lieu ce week-end en Europe, au Portugal, où la droite modérée reste au pouvoir.
Mais le Premier ministre Luis Montenegro n'a pas obtenu, lors de ses législatives anticipées, une majorité suffisante pour gouverner seul, pas de majorité absolue, et l'extrême droite continue de progresser. Elle dépasse même pour la première fois la barre des 20%.
Un nouveau partenariat stratégique signé ce lundi entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Mais pour resserrer les liens, notamment en matière de défense et de sécurité, ça s'est passé ce lundi lors d'un sommet qui était une première depuis le Brexit, il y a 5 ans déjà. Les signataires ont aussi trouvé un compromis pour assouplir certaines barrières commerciales et puis prolonger un accord sur la pêche.
Il est 20h09 ici à Paris, vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Christophe Pagé. Christophe, on en vient au dossier de cette édition et on continue de parler économie. Cette fois à propos de la France, Emmanuel Macron, ce lundi soir, s'est exprimé devant près de 200 patrons français et étrangers sous les ors du Palais de Versailles près de Paris.
C'est le sommet Choose France que le président français organise chaque année depuis le début de son premier mandat. Objectif, promouvoir la France comme destination privilégiée pour les investissements étrangers. L'occasion pour Emmanuel Macron de se féliciter de l'annonce de 20 milliards d'euros de nouveaux investissements. Justine Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur place au Palais de Versailles. 20 milliards d'euros, c'est un record depuis la création de Choose France en 2017.
Oui, et comme pour montrer l'ampleur des efforts nécessaires pour arriver à ce chiffre, le président a tout de même rappelé dans son discours les difficultés des économies européennes en ce moment, les droits de douane américains et la forte concurrence chinoise. En tout, 13 000 emplois directs devraient découler de tous ces projets d'investissement. L'événement était au départ beaucoup centré sur l'industrie, mais il a été élargi cette année à la production cinématographique et au tourisme notamment. La plateforme américaine Netflix, par exemple, investit dans une cinémathèque à Marseille.
Parmi les investissements annoncés cette année, on trouve aussi des projets liés au recyclage.
L'entreprise américaine Circ va investir 450 millions d'euros pour construire une grande usine de recyclage textile, 200 emplois à la clé. Pour son patron Peter Majeranowski, le nucléaire a été un argument important pour choisir la France plutôt qu'un autre pays.
Quand nous cherchions où nous implanter, nous avons regardé de près la question de l'énergie qui est importante dans notre processus de production. Et la France a une énergie qui émet très peu de CO2, qui est très peu chère et très fiable. Vu le contexte de la guerre en Ukraine, ça a compté.
C'est l'une des raisons qui fait de la France le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers en Europe.
Mais malgré ces annonces, Justine, l'an dernier, ça a été un coup de frein pour la réindustrialisation du pays.
Oui, à cause de l'incertitude politique nationale ou encore de l'incertitude commerciale mondiale notamment. Les fermetures d'usines ont augmenté de plus de 25% en France en 2024. Pour le patron d'Amazon France qui vient d'annoncer 300 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans des entrepôts logistiques, voici sur quoi la France doit encore progresser pour séduire les investisseurs.
Le problème qu'on a plutôt, ce sont des restrictions administratives qui font que c'est plus difficile d'investir en France, ça prend plus de temps. Et donc tout ce qui peut encourager à faire en sorte que ça soit plus facile, eh bien nous l'encourageons.
Simplifier les procédures administratives, accélérer l'autorisation des projets industriels, c'est l'une des promesses d'Emmanuel Macron qui a martelé encore ce soir dans son discours le besoin de simplification à l'échelle européenne notamment. Un projet de loi en ce sens est aussi en cours d'examen au Parlement français ces jours-ci.
C'est bien noté, merci Justine Fontaine, en direct du Palais de Versailles.
Également en France, l'État accusé de dissimulation par une commission d'enquête sénatoriale. On parle là du scandale des traitements illicites des eaux minérales.
Oui, les sénateurs ont enquêté pendant des mois sur la façon dont l'entreprise Nestlé Waters a illégalement traité ces eaux minérales pour les rendre conformes à la consommation. Et les sénateurs, auteurs du rapport, persistent et signent. L'État était défaillant, il a dissimulé des éléments dans cette affaire. Un manque de transparence à la fois vis-à-vis des autorités locales et européennes et vis-à-vis des Français. À la mi-journée, les sénateurs ont organisé une conférence de presse pour présenter les conclusions de leur enquête. Victorien Villaume.
Dissimulation de l'État, stratégie délibérée. Après 6 mois de travail, 60 auditions, les mots forts de la part d'Alexandre Wizil. Le sénateur socialiste défend un travail long et minutieux.
Nous nous sommes attachés, verbatim à l'appui, à faire des démonstrations. Ce n'est pas notre avis. Je peux vous dire qu'il y a eu des milliers de pages de documents à évaluer, des milliers de mails, de rapports, de notes internes qu'il a fallu décortiquer pour aboutir à réussir à faire émerger la part de vérité.
Les sénateurs pointent du doigt de nombreuses défaillances, une faible mobilisation de l'autorité publique, l'absence des ministres dans le processus de décision, mais également...
Malgré la fraude aux consommateurs que représente cette désinfection, les autorités choisissent de ne pas donner de suite judiciaire à ces révélations. Il est décidé de ne pas révéler au grand public cette fraude. Lorsque l'État a accepté le plan de transformation de Nestlé, il est passé de traitements qui certes étaient illégaux, mais qui d'un point de vue sanitaire étaient extrêmement robuste, à des traitements qui étaient moins robustes.
C'est important de le noter, l'expression « scandale d'État » toutefois n'est pas utilisée dans le rapport. C'est ce qu'auraient souhaité Alexandre Wizil et la sénatrice écologiste Antoinette Gull. Sauf qu'il n'y a pas eu de consensus sur le sujet. Le sénateur de droite Laurent Burgoa n'était pas de cet avis.
Victorien Villaume.
Et on conclut au Festival de Cannes avec la femme la plus riche du monde.
Alors c'est le titre du film de Thierry Cliffin, un film hors compétition qui sortira en salle en France en octobre prochain. Et cette femme la plus riche du monde est interprétée par Isabelle Huppert, c'est Liliane Bettencourt. Isabelle Chenu, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
On vous retrouve sur La Croisette. Alors, l'abus de faiblesse dont a été victime Liliane Bettencourt, l'actionnaire principal de l'entreprise L'Oréal, a été jugé en 2016, un an avant son décès. Mais le photographe François-Marie Bagné, l'homme accusé d'avoir profité de ses largesses, est lui toujours vivant. Le film est donc librement interprété de la réalité. Il a été présenté alors que L'Oréal est le partenaire officiel du Festival de Cannes.
Oui, et c'est drôle, féroce, grinçant. La femme la plus riche du monde est une comédie sur l'avidité d'un arriviste sans foi ni loi et l'ennui inimaginable du grand monde. Dans le film de Thierry Cliffin, le personnage de Marianne Farrer, joué par Isabelle Huppert, a hérité d'un empire mondial de cosmétiques qu'elle dirige d'une main de fer. Mariée par convention depuis longtemps, mère d'une fille à laquelle elle n'a jamais vraiment prêté attention, Marianne, déjà âgée, va tomber sous la coupe d'un photographe excentrique, charmeur et vulgaire, campé par Laurent Lafitte. L'escroc s'installe dans l'intimité de la famille et Marianne cède à tous les caprices de celui qui lui soutirera près d'un milliard d'euros. Le bonheur et la légèreté n'ont pas de prix. C'est finalement le petit personnel de la maison, humilié par le sans-gêne, qui causera sa perte.
Merci Isabelle Chenu, en direct de Cannes.
Et merci Christophe Paget pour ce grand journal du soir, 20h15 ici à Paris.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Et dans les prochaines minutes, on va évoquer cette nouvelle donne politique au Portugal. L'extrême droite, deuxième force du pays après les législatives d'hier. Est-ce que l'extrême droite peut peser dans la future coalition? Comment expliquer une telle ascension? Nous poserons ces questions à nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur le sujet dans leur édition à paraître demain mardi. Et puis dans le contexte de la guerre à Gaza, comment les Palestiniens ont-ils vécu la commémoration de la Nakba, la catastrophe selon eux, qui a été en 1948 la création de l'État d'Israël? C'était il y a 77 ans, reportage à suivre dans un camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. Mais pour l'heure, voici les sports. Avec Thomas Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Romain.
Allez, le football, 37e et avant-dernière journée de championnat d'Angleterre. Elle s'est jouée, cette avant-dernière journée de championnat, en partie ce week-end. Il reste encore 3 matchs et le premier, c'est ce soir.
C'est la suite de la tournée du patron, du champion. Liverpool en déplacement ce soir chez le 9e Brighton avec des joueurs qui ont peut-être, ça se comprend, la tête aux vacances. Difficile en tout cas de motiver les troupes pour l'entraîneur néerlandais des Reds, Arne Slot.
Je ne peux pas me mettre à la place des joueurs, mais c'est vrai que c'est plus dur de les motiver puisqu'on ne se bat plus pour le titre. Contre Arsenal la semaine passée, j'ai vu une équipe compétitive qui s'est battue de la première à la dernière minute. La réalité, c'est que si tu joues à Chelsea, à Arsenal ou à Brighton, ce sont toujours des matchs compliqués. C'est pourquoi je suis content que nous ayons déjà assez de points pour remporter la Première Ligue. Clear
to clinch the title. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, avant ce match à Brighton tout à l'heure. Les deux dernières rencontres de la 37e journée de Premier League sont prévues demain. Elles opposeront Crystal Palace, vainqueur de la Cup le week-end dernier, à Wolverhampton, et Manchester City à Bournemouth. City battu justement en finale de cette Coupe d'Angleterre et dont la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est encore loin d'être garantie. Les joueurs de Pep Guardiola ne sont que 6e du classement pour l'instant.
Alors, c'est le club de Lyon en foot féminin, le plus titré du football européen chez les femmes, qui ne s'appelle plus OL Féminin et qui change de nom.
Et devient OL Lyon ou OL Lioness, peut-être à prononcer à l'anglaise. La section féminine a été rachetée, vous le savez, l'année dernière par la femme d'affaires américaine Michelle Kang. Et ce changement de nom permet aussi d'acter un peu plus son indépendance vis-à-vis de l'OL, du canal historique. Donc,
allez, le tennis, puisque dimanche va débuter Roland-Garros, hein, le deuxième grand chelem de la saison. En attendant, certains joueurs se préparent au tournoi de Hambourg en Allemagne.
Certains cadors font l'impasse. Alcaraz et Sinner, par exemple, ont joué la finale hier du Masters 1000 de Rome. Ils n'iront pas voir Hambourg, mais on a quelques bons clients sur le court. Alexander Zverev, l'Allemand numéro 3 mondial, il jouait cet après-midi. Il a battu en deux manches l'Américain Kovacevic. Ça passe aussi pour le Russe Andrei Rublev et pour le Français Alexandre Muller. Auxerre qualifié donc pour le deuxième tour. Allez, le basket pour conclure. Et ça y est, on connaît hein, le tableau complet des finales de conférence NBA. Oklahoma, dernier qualifié. Ah, Oklahoma qualifié en remportant le septième match décisif d'une série très disputée face à Denver. Mais cette dernière victoire est à l'opposé large, sans conteste, 125-93. Le soulagement de l'arrière canadien, Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur marqueur de la rencontre avec ses 35 points.
I was nervous, to be honest.
J'étais nerveux, pour être honnête, sachant ce qui était en jeu. Nous avons travaillé si dur pendant toute la saison régulière et ces 82 matchs. On sait que si on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes, tout peut s'arrêter. Mais je pense que cette nervosité m'a motivé et m'a aidé à jouer aujourd'hui, à me donner à fond des deux côtés du terrain. J'en ai fait une force de cette nervosité.
Quelle voix, hein, c'est chez Gilgeous, Alexander et Oklahoma qui affronteront Minnesota en finale de la conférence Ouest. Premier match de la série demain soir. À l'Est, ça opposera, pour rappel, les New York Knicks aux Pacers d'Indiana et ça commencera un jour plus tard.
Mais vous n'avez rien à lui envier, Thomas Saint-Léger, ne vous inquiétez pas. Il est 19h20 à Lisbonne. Ce lundi est un lendemain d'élections dans plusieurs pays européens, en Pologne, en Roumanie, au Portugal. À chaque fois, l'extrême droite était en lice. On va évoquer la situation au Portugal ce soir. Bonsoir Agnès Rotivel.
Bonsoir.
Journaliste au service Monde du journal La Croix. Alors vous analysez dans votre édition à paraître demain mardi la percée du Chega. Le Chega, c'est le parti d'extrême droite au Portugal qui est désormais, après les législatives d'hier, eh bien le deuxième mouvement politique du pays. Oui. Chega, qui veut dire assez, né en 2019, hein, qui avait un seul député en 2019. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle ascension?
Écoutez, on peut, je pense, déjà parler de son leader, Ventura, qui est professeur de droit, qui a compris qu'en tenant des propos anti-système, contre la corruption, contre l'immigration illégale, il fustige en permanence les tziganes, qu'il appelle les profiteurs. Il a séduit un électorat plutôt désabusé par la politique, souvent plutôt rural, qui n'habite pas dans la capitale Lisbonne, qui appartient à des couches sociales les plus défavorisées. Bref, des gens qui pâtissent du système actuel. Pendant des années, le Parti socialiste a été au pouvoir. Le Parti socialiste a énormément développé le Portugal. Mais ce développement s'est fait aussi au détriment de certaines classes sociales qui se sont vues relayées, par exemple, en termes de logement, en dehors de la ville de Lisbonne, parce que les loyers sont devenus beaucoup trop chers du fait du développement de l'immobilier, des étrangers qui viennent acheter des appartements, d'une gentrification de la capitale. Et donc, cet électorat-là, il a su le capter par aussi l'utilisation des réseaux sociaux, comme la plupart des leaders des extrême droite désormais, qui en trois, quatre mots capte un électorat qui ne cherche pas tellement à aller plus loin et qui par des slogans sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux arrive à justement capter cet électorat.
Et un électorat qui est très large, évidemment ça ne s'observe pas qu'au Portugal et ailleurs en Europe, mais à l'issue des législatives d'hier, 23% de l'électorat pour l'extrême droite, près d'un Portugais sur quatre qui a voté pour le Chega, pour ce parti.
Si vous voulez aussi, le Portugal, ça fait 3 ans qu'ils sont en élection. Depuis le départ des socialistes, le pays est très instable politiquement. Et donc, les Portugais se désintéressent quand même beaucoup de la politique parce que les partis politiques n'arrivent pas à tenir les coalitions. Il y a une fatigue politique. Il y a aussi une fatigue, comme je vous l'ai dit, de gens qui sont déçus, qui voient que leur salaire n'évolue pas beaucoup. Hein. Le Portugal n'est pas un des pays où les salaires sont les plus élevés en Europe, au contraire. Et puis surtout, il y a un facteur très important au Portugal qui est l'émigration de plus en plus forte des jeunes. Les gouvernements successifs essayent toujours de les attirer dans leur pays, mais souvent, ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils gagnent beaucoup mieux leur vie à l'étranger. Pour ceux, les Portugais en France, quand ils voient la différence, effectivement, c'est plus intéressant de rester pour eux en France parce qu'ils gagnent mieux leur vie que s'ils étaient au Portugal. C'est la même chose aussi pour ceux qui vont travailler en Suisse, en Allemagne, etc. Les jeunes sont particulièrement touchés. Là, 30% des jeunes qui sont nés au Portugal, ce qui fait à peu près environ 850 000 personnes âgées de 15 à 39 ans résident actuellement en dehors du pays.
Que peut-il se passer désormais au Portugal après les législatives d'hier, puisque le Premier ministre sortant va être reconduit à son poste, mais la question c'est de savoir avec quelle coalition.
Oui, la question va se poser parce qu'il n'a pas la majorité des sièges à l'Assemblée. Ça va être très compliqué, si vous voulez, le Parti socialiste avec qui il pourrait faire une alliance n'a pas très envie de s'allier avec le leader du parti de droite qui a pas tenu plus d'un an. C'est pas un gouvernement qui a un avenir considérable. Et l'autre alternative serait de s'associer avec Chega. Mais le Premier ministre Monténégro a toujours dit qu'il ne franchirait pas ce pas. Sauf que c'est difficile de trouver une autre alternative. Donc la question va se poser parce que Ventura et son parti Chega sont en mesure aussi de poser leurs conditions. On a vu ce que ça donnait, par exemple en Espagne, l'autre parti d'extrême droite gouverne un certain nombre de régions en Espagne. Et on sait très bien que pour l'instant, le parti Chega est en ascendance. Enfin, c'est un parti qui progresse.
Au Portugal, Chega devient la deuxième force politique. Article donc à retrouver ce mardi dans La Croix et évidemment sur votre site internet. Merci Agnès Rotivel.
Merci.
La situation à Gaza, à la une de l'actualité ce soir, l'offensive israélienne continue de s'intensifier. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a annoncé ce lundi que son pays allait prendre le contrôle de tout le territoire palestinien de Gaza. Dans ce contexte, la création d'Israël la semaine dernière a été célébrée par les Juifs qui, il y a 77 ans, voyaient leur rêve d'État se concrétiser, tandis que pour les Palestiniens, c'est ce qu'on appelle la Nakba, en français la catastrophe, car cette date renvoie à l'exode et l'expulsion de plus de 800 000 Palestiniens de leur terre. Comment, dans la situation actuelle, les commémorations de la Nakba sont-elles vécues? Reportage dans le camp de réfugiés d'Askar, aux abords de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Reportage pour RFI signé Amira Swilem.
Jusqu'à la dernière minute, un doute planait sur la tenue des commémorations de la Nakba. Le matin même, les forces spéciales israéliennes ont investi le camp de réfugiés voisin de Balata. Elles viennent de se retirer. La fanfare démarre. Des centaines de personnes défilent dans les rues du camp d'Askar. Parmi elles, de nombreux enfants et de jeunes, habillés en tenue d'époque. Comme Jamil, un grand adolescent qui arbore une longue djellaba et un keffieh.
On est habillés comme nos ancêtres qui ont été déracinés en 1948 pendant la Nakba. Quand on les a fait sortir de leur terre, ils étaient habillés comme ça. Des milicianistes leur ont demandé de partir 3 jours seulement, ils avaient promis de les faire revenir. Mes grands-parents sont partis et 77 ans plus tard, ils ne sont toujours pas rentrés.
Un petit train arrive, plein à craquer. Rasma, 15 ans.
Ce train symbolise la Nakba et le fait qu'on veut rentrer chez nous.
Mais c'est où vos villes?
C'est Jaffa et Haïfa. On ne doit pas les oublier. Mes grands-parents m'ont raconté que ce sont de belles villes et qu'on a une maison là-bas. J'espère qu'on pourra y retourner un jour.
Jaffa et Haïfa se situent désormais en Israël. Dans la foule, certains enfants brandissent aussi des armes ou des clés en carton. Le message est clair et assumé ici. Le droit au retour se fera coûte que coûte. Sem El Jemel est en charge des programmes scolaires au ministère de l'Éducation nationale palestinien.
Au sein du ministère de l'Éducation nationale, nous faisons en sorte que le récit palestinien des événements soit présent dans les programmes scolaires. On organise aussi des événements dans nos écoles, des activités, des festivals, tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces élèves continuent d'être attachés à cette terre. Les Israéliens ont cru que les anciens allaient mourir et que les plus jeunes allaient oublier. Chaque génération se passera le flambeau du souvenir.
Sur les banderoles ou dans les discours, une phrase revient sans cesse. La Nakba continue. Rassen Darlas, gouverneur de Naplouse, en explique la signification.
La Nakba continue, oui. Tant que l'occupation perdure, la Nakba continue. Tant que l'injustice se maintient vis-à-vis du peuple palestinien, alors la Nakba continue. On espère que cette injustice cessera et que le peuple palestinien pourra accéder à son rêve d'État indépendant avec Jérusalem comme capitale.
Quelques heures après cette cérémonie, on apprenait qu'Israël lançait sa vaste offensive terrestre sur Gaza. Amira Swilem, Naplouse, RFI.
Et retour à Paris, bientôt 20h29, bientôt la première édition de l'Afrique Soir, la session d'info. Évidemment, elle se poursuit sur RFI à la une. La Cour internationale de justice qui donne raison à la Guinée équatoriale dans le litige qui l'oppose au Gabon. Tous les détails à suivre, ne bougez surtout pas.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
L'hôtel du libre-échange est la pièce de théâtre la plus célèbre de Georges Feydeau. Un vaudeville truculent avec mari, maîtresse, quiproquo, bon mot, car le langage est un puissant moteur du rire. Avec sa nouvelle mise en scène, Stanislas Nordet en propose une version où tout se dérègle dans la joie.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.